Bonjour et bienvenue sur le balado Jason Pédagogie Numérique. Je suis Florence Sedamino Muratet et pour ce deuxième épisode, je jase avec Emmanuela Michel, qui est candidate au doctorat en technologie de l'éducation à l'Université de Laval et fondatrice de la jeune pousse Conicorp Thérapie. Après avoir œuvré pendant plus de 15 ans dans le domaine de la santé, des services sociaux et de l'éducation, Emmanuela a consacré la majeure partie de sa carrière au service des jeunes et des familles. Elle a développé plusieurs programmes en réadaptation et a coordonné des projets de recherche sous forme de laboratoire vivant. Il me semblait pertinent d'inviter Emmanuela à nous parler de son parcours inspirant de gestionnaire de programme, travailleuse sociale, entrepreneur et créatrice de contenu en réalité virtuelle. Cela nous permet d'explorer la vision d'une femme de terrain qui s'est lancée dans le développement de contenu pour répondre aux enjeux de la santé mentale des jeunes Québécois. La réalité virtuelle, on la connaît, elle permet de placer l'individu au centre d'environnement réaliste pour s'entraîner dans le cadre de l'éducation sur le terrain et développer des compétences comportementales. Mais elle peut être aussi utilisée pour se sentir mieux. Alors le cas d'usage de la VR sur la plateforme d'Emmanuela en est un. Bonne écoute. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté l'invitation aujourd'hui. On va pouvoir parler de toi, on va pouvoir parler de ton parcours et puis surtout en fait de ton investissement dans le domaine de la réalité virtuelle au Québec. Donc c'est ça, bienvenue à toi. La question un peu, je dirais, phare que je pose à tous nos invités, comment t'en es arrivé là, qui es-tu et comment tu en es arrivé à la techno-pédagogie? Je t'écoute.
C'est sûr que moi, j'ai commencé, ma carrière est pas les carrières, je pourrais dire, atypiques, où ce que, bon, on va dans un programme, puis ensuite, on commence notre carrière. Donc, moi, j'ai commencé dans le domaine de la santé et des services sociaux, donc en intervention. J'ai été, je pourrais te dire, conseillère en santé mentale pendant plusieurs années. Mm-hmm. J'ai commencé dans le domaine communautaire dès mon bac. J'ai géré un programme pour les jeunes filles qui les amenait à améliorer leur développement personnel et on combinait des activités physiques, donc du kickboxing et des ateliers de développement personnel dans les écoles et les organismes communautaires. Par la suite, après avoir fait ça pendant plusieurs années, ben au fait 3 ans à peu près, je me suis dit ben c'était difficile de pouvoir aller en profondeur avec les jeunes. Donc c'est sûr qu'on offre un programme de 8 semaines, c'était difficile d'aller en profondeur. Donc je me suis dit, ben peut-être que je devrais aller découvrir un peu plus l'arrière-plan de la santé mentale et de mieux comprendre la problématique de la santé mentale dans sa globalité. Après 3 ans, j'ai développé des programmes, au fait, travailler avec des tables de concertation dans Peter McGill au centre-ville. Et je suis partie travailler, au fait, pour l'Institut Douglas, mais en administration, en arrière-plan, pour être en mesure d'observer, justement, toutes les facettes de la santé mentale. Entre-temps, ben c'est ça, j'ai eu ma deuxième fille, puis tout à fait après l'accouchement, ben je me suis dit, ben ok, est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai décidé d'offrir un projet en collaboration avec le Centre de réadaptation Ouest de Montréal, le CRUM, et le ministère de Santé et des Services sociaux, puisque en 2003, le système de santé avait eu encore une autre réorganisation, en fait. Il voulait diriger la clientèle qui était en troisième ligne, mais qui n'avait pas d'affaires à être là, qui pouvait bien fonctionner dans la première ligne, donc dans la communauté, de les transférer dans des maisons qu'ils allaient créer pour pouvoir subvenir à leurs besoins par des personnes qui étaient plutôt soit conseillères, intervenantes, mais pendant plusieurs années, qui avaient de l'expérience auprès des clientèles en difficulté. Donc moi, j'ai eu, pour la clientèle jeune, j'ai pu gérer une maison au fait par contrat avec l'établissement public qui était le Centre Ouest de Montréal, le Centre de réadaptation Ouest de Montréal et le ministère. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai aussi contribué à la table de comité de la qualité et comité des risques, où d'ailleurs, pendant ce temps-là, j'avais commencé ma maîtrise en administration parce que je voulais justement aller chercher. Donc, c'est pas mal. Pour moi, l'éducation, Il y a une nécessité. J'apprends pas juste pour apprendre. Des fois, oui, je vais lire un livre parce que j'ai besoin d'améliorer certaines compétences.
Oui.
Mais pour moi, ça m'a toujours amené des compétences précises dans ce que je voulais faire.
En fait,
Donc,
c'est
c'est
quelqu'un du terrain, c'est ça? Tu viens plus
exactement.
du domaine, en fait, du travail social. Puis, en fait, c'est ça, tu vas chercher, en fait, la théorie pour aller expliquer ou valider des choses. Donc, dans ce parcours, je comprends que tu es partie du travail social, beaucoup en santé mentale. Qu'est-ce qui t'a, tout d'un coup, il y a eu l'étincelle réalité virtuelle? Parce que là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, de 2007 à 2017, j'ai géré ce foyer de groupe-là, aidé les parents et tout ça. Donc, moi, je devais développer des programmes pour ces jeunes-là, pour le foyer que je gérais, au fait. Je devais gérer des programmes, développer les programmes moi-même pour accompagner les intervenants, les éducateurs spécialisés que j'embauchais pour superviser et offrir du soutien et de l'assistance à la clientèle. Donc, tous ces programmes que je développais, c'était des programmes, au fait, très interactifs,
Oui.
adaptatifs, qui pouvaient aider à améliorer les comportements. Donc, toujours dans le domaine comportemental, behavioral. Donc, par la suite, en 2012, quand il y a eu encore un changement de gouvernement, et là, il y a eu la régionalisation des services de santé, je me suis dit, ben, OK. Là, il y avait des coupures, puis moi, je travaillais avec des
Oui.
jeunes assez à risque, avec des troubles graves de comportement. Donc là, en 2016, j'ai décidé que, OK, j'avais pas le goût de revivre une autre
Ben oui.
réorganisation.
Oui, c'est sûr.
Et je me suis dit, après 10 ans, j'avais fait ce que j'avais à faire, puis j'avais développé des programmes et que c'était peut-être le temps pour moi, tant que la dernière jeune a eu 18 ans, de fermer. Donc, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que bon, j'ai développé des programmes. Comment je peux découvrir, justement, prendre ces programmes-là et les amener au digital, parce qu'il y avait sûrement quelque chose qui existait qui pouvait me permettre de faire ça, puisque j'avais développé plusieurs programmes qui étaient quand même fort intéressants pour aider la clientèle. J'ai découvert le programme technologie éducative à l'Université Laval, et comme j'avais déjà une maîtrise, je me suis dit, ben, pourquoi pas un doctorat?
Oui.
Je sais pas ce que j'ai pensé, mais en tout cas, bref. J'ai décidé de faire le doctorat en technologie éducative, et c'est là que j'ai découvert vraiment l'amour pour le design,
Ouais.
le co-design et aussi tout ce qui s'appelle jeu. J'ai adoré mon cours jeu et apprentissage, où ce que là, moi, je suis la personne qui va faire le design des mécaniques de jeu, donc les
Ouais.
mécaniques d'apprentissage, les mécaniques qui sont en lien avec le jeu, combien de fois qu'on veut que la personne puisse retourner, qu'est-ce qu'on veut que la personne puisse développer comme compétence à l'intérieur de ces jeux-là. Donc, le fait que là, maintenant, j'avais toute cette compétence, acquis la compétence de design de jeu et d'apprentissage, là, je m'amusais à utiliser les programmes que j'avais développés anciennement
D'accord.
pour développer. Donc, j'ai développé un jeu sérieux que j'ai animé, au fait, en ligne. Puis, par la suite, il y a eu un projet avec Oculus Launchpad, où ce que Oculus, ben, il venait d'acheter les casques de réalité virtuelle.
Ouais.
Mais pour vite se rendre compte que ces casques-là pouvaient être utilisés parce que leur focus était vraiment sur le jeu, et ils se sont vite rendus compte qu'ils pouvaient aussi utiliser la réalité virtuelle pour d'autres spectacles. Donc, ils ont créé un programme qui s'appelait Oculus Launchpad. À travers ce programme-là, ils allaient recruter environ 100 personnes, développeurs de contenu, qui avaient déjà développé des expériences de jeu, soit d'apprentissage, peu importe le secteur d'activité. On se retrouvait tous ensemble dans les bureaux de Facebook en Californie pour la réalité virtuelle. Donc, moi, j'ai fait partie d'une cohorte. J'ai été 2 ans de suite. J'ai pu, au fait, apprendre. J'ai découvert l'outil. J'ai découvert la réalité virtuelle en 2019. Et quand j'ai découvert cet outil-là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça aurait été tellement intéressant si, dans le temps, j'aurais pu utiliser cet outil-là pour aider mes jeunes, mais comme avant qu'ils soient en crise. Donc, ça aurait été le moment où ce que on peut utiliser cet outil-là pour y réduire leur anxiété, pas quand ils sont en crise. Donc, souvent, tu sais, dans une grille de désescalade, tu vas avoir comme vert, orange et rouge. Donc, tant que le jeune est dans le vert, c'est peut-être le moment de l'apprendre à utiliser l'outil pour se calmer, de manière à ce qu'en qu'il est orange, puis qu'il sent qu'il va tomber en crise, puis se dire, ben, OK, je vais aller utiliser mes outils, je vais aller dans un environnement qui va m'aider à me calmer, je vais faire des exercices de respiration ou je vais me promener un peu, changer les idées un peu et utiliser au fait ces stratégies de désescalade. Donc, je me suis dit, ben, ça y est, ils ont dit qu'il fallait qu'on crée un projet dans le cadre du programme. J'ai dit, ça y est, je vais créer une plateforme de réalité virtuelle, utiliser la réalité virtuelle pour créer une plateforme pour aider les personnels, le personnel en santé mentale. Donc, les professionnels en santé mentale. Je suis alliée avec 2-3 personnes dans la cohorte. J'ai décidé, la première année, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, je suis retournée la deuxième année. Là, je l'ai faite seule avec les balises, les outils que j'avais déjà développés dans le passé. Et là, j'ai développé la version alpha de la plateforme.
Parce que c'est ça, on s'est rencontrés. Moi, j'ai vu, en fait, le développement. J'ai dû croiser ça quelque part, le développement, en fait, de ta plateforme. Je t'ai contactée pour qu'on puisse, en fait, développer ensemble une sorte d'activité expérientielle autour de... Oui. Ben, l'usage de ta plateforme, le casque de réalité virtuelle. Écoute, c'était vraiment super jusqu'à maintenant. On en entend encore parler dans le réseau parce que c'était vraiment une expérience, une activité, je dirais, qui permettait aux praticiens de faire l'expérience d'une plateforme en réalité virtuelle. Certains, pour eux, c'était la première fois qu'ils utilisaient le casque, mais dans un cégep virtuel. Alors... Mmh. Sachant que le tracé, là, tu sais, ce que tu narres est vraiment, j'irais, nous permet en fait de comprendre, tu sais, tout le processus d'une personne qui vient du terrain, dans le travail social, beaucoup dans l'aide et le développement d'outils pour accompagner le personnel ou les personnes en difficulté. Ensuite, ces opportunités au niveau de la technologie éducative ou de la conception technologique de parcours d'apprentissage. Puis, t'en viens à Facebook, à l'époque, qui est Meta maintenant. Et je comprends tout le souci de se dire, OK, pour déployer nos casques, ben, il faut forcément trouver des développeurs de contenu, des experts de contenu. Puis, tu développes ça et on en vient au moment où on se rencontre sur ce cégep virtuel. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Parce que c'est ça, ça allait un peu dans l'opportunité de pouvoir développer en éducation, on tombait en plein milieu du Covid, ça avait complètement son sens de développer tout un espace et un cégep virtuel pour permettre en fait aux étudiants de se retrouver, aux profs de donner des cours. Je trouvais ça vraiment, vraiment très en avance. Mais il y a comme eu je vais me permettre cette expression en anglais, un step back, un recul. Pour pouvoir plus justement se concentrer dans le domaine de la santé mentale. Aujourd'hui, on le sait, la santé mentale, on peut en parler. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce que tu proposes, toi, en santé mentale, avec le casque de réalité virtuelle?
Donc, au fait, quand on s'est rencontrés, c'était la première fois que je faisais, au fait, de la validation, mais au niveau alpha. Donc, toutes les personnes m'ont testé, ils ont donné des bons commentaires. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que justement, moi, j'avais développé plusieurs environnements. Il y en avait qui étaient plutôt thérapeutiques. Tu te rappelles, on pouvait aller dans le train et on pouvait décider si on veut aller plus au niveau thérapeutique santé mentale ou si on veut aller plus au niveau expérientiel un peu en éducation. Parce que même quand j'ai développé, moi, je me laissais aller puis j'étais aussi en apprentissage parce que je m'étais dit que c'était important pour moi que la plateforme puisse offrir des outils sur la plateforme, comme on va dire des stratégies éducatives et aussi en santé, parce que pour moi, j'ai toujours été dans les deux. J'ai toujours été sur le terrain en éducation et en santé mentale. Donc, pour moi, c'était bien de reproduire ça parce que ça va ensemble. Dans un sens, on peut éduquer la personne à prendre soin de soi et on peut aussi supporter les étudiants qui vivent des difficultés dans l'apprentissage. Et des fois, ces difficultés-là sont liées à divers facteurs.
Oui, bien sûr.
Dont la santé. Par la suite, je me suis dit, OK, quand on a fait de l'alpha, je me suis dit, oh, wow, ils m'ont donné des commentaires qui étaient très intéressants. Donc là, j'ai le choix de soit juste aller vers l'éducation ou aller juste vers la santé ou combiner les deux. Pour moi, j'ai voulu toujours continuer à combiner les deux. Donc, j'ai pris la décision de continuer à combiner les deux, mais plus me focusser sur la santé mentale. Le volet santé mentale, il va à la fois, nos segments clients seraient comme les personnes qui travaillent dans les cliniques, les hôpitaux, dans le public et dans le privé, mais aussi les écoles. Donc, je suis restée dans l'éducation, mais dans le volet santé mentale des élèves, qu'ils soient à l'université, au cégep.
Et moi, c'est d'autant plus important, tu sais ce que tu dis, pour faire le lien avec l'éducation, parce que justement, dans le réseau collégial, on a toutes ces formations reliées au travail social. Tu sais, de savoir en fait qu'il y a des outils, tu sais, généralement c'est ça, le travail social, on dit toujours que c'est quelque chose de terrain, tu sais, faut vraiment avoir l'expérience d'eux. Il y a beaucoup d'outils qui se développent, mais beaucoup en simulation, vidéo 360 pour la prise de décision, etc. Mais C'est vraiment pour la formation, la prise de décision, pour, je dirais, une expérience sur le terrain. Là, moi, ce que je comprends avec ton outil, c'est qu'il permet non seulement de pouvoir fournir des ressources aux travailleurs sociaux, ou en tout cas, aux, je dirais, aux praticiens du domaine, en fait, de la santé mentale, mais il permet aussi de leur apporter des ressources pour les patients, tu sais, entre guillemets, pour les patients qui peuvent être des étudiants. Et c'est en ça où je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Mais concrètement, tu peux expliquer en quelques phrases, si moi, par exemple, j'ai un besoin en tant que travailleuse sociale et j'aimerais utiliser ta plateforme, on va partir de l'étude de cas, qu'est-ce que je devrais faire? En quoi, en fait, cette plateforme va me permettre à moi, travailleuse sociale, d'apporter des outils qui pourraient permettre, en fait, d'aider, entre guillemets, les étudiants avec qui je travaille?
Et tu vois, comme par exemple, la plateforme, comme tu disais tantôt, c'est intéressant, pour la prise de décision, par exemple, ben nous, qu'est-ce qu'on a dit? Depuis la fois qu'on s'est rencontrés, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qu'il faut faire parce que la réalité virtuelle en soi, juste utilisée seule dans la plateforme, ne permet pas de vraiment favoriser ou améliorer ce qui se passe présentement au niveau de la santé mentale. Donc, on avait besoin de tourner sur le drawing board, comme qu'on dit, pour redessiner au fait la démarche, parce que juste offrir un casque de réalité virtuelle avec des environnements et des outils, par exemple, comme des expériences en synchrone ou asynchrone, n'était pas assez pour aider à atteindre la mission qu'on se donnait, qui est de démocratiser au fait les services de santé mentale et l'accessibilité aux personnes qui sont souffrantes. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'on devrait retravailler sur le parcours. Donc, là, maintenant qu'on puisse offrir un parcours thérapeutique, réalité virtuelle deviendrait un outil. Donc, un exemple concret, un élève qui vit de l'anxiété ou qui a une phobie pourrait, dans un premier temps, faire l'analyse de ses besoins. Soit on identifie c'est où que se centre sa problématique. On le rencontre soit en face à face ou en vidéoconférence. Par la suite, on a encore d'autres données par rapport non-verbaux, verbaux au niveau de ses besoins. On peaufine le plan d'intervention, on met en place des grilles de désescalade, surtout dans les écoles, quand ils sont en cours, ben, comme on voit certains comportements, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut faire telle intervention. Puis par la suite, aller vers la réalité virtuelle pour mettre cet élève-là en interaction directe.
D'accord, mais ça veut dire que ça peut être la réalité virtuelle ou pas? Puisque,
ça peut être la réalité virtuelle ou pas. Parce que c'est pas pour tout le monde la réalité virtuelle. Il faut qu'on soit conscient que la réalité virtuelle, il y a des gens, ceux qui souffrent du mal de mer ou qui peuvent sentir des fois un petit peu d'étourdissement. C'est sûr que la personne, son corps va finalement peut-être s'habituer, comme il y en a d'autres qui veulent juste, vont rien vouloir savoir de tester ce outil.
D'accord. Mais c'est super intéressant. Il y a deux choses que tu as dites qui m'ont, je dirais, alors, mise d'accord dans le sens où, tu sais, tu as parlé de réalité virtuelle comme outil. C'est-à-dire que tu proposes une plateforme qui permet aussi, comme tu dis, l'accessibilité et la différenciation, c'est la possibilité pour la personne qui suit ses parcours d'apprentissage choisir. Et à ce moment-là, la réalité virtuelle vient pas en faire le lien de tout ça. Mais tu sais, c'est possible de la mettre aussi de côté, mais c'est quelque chose qui est proposé pour, je dirais, améliorer ou agrandir les possibilités d'expérience, en fait. Dans ce parcours.
C'est vraiment un parcours thérapeutique. Tu sais, si je dirais en quelques mots, au fait, Cogni, on offre des parcours thérapeutiques qui sont modulables, personnalisables et sécuritaires pour le professionnel en santé mentale de façon à ce qu'il puisse dire, ben OK, je peux individualiser maintenant, mais pas un one size fit all, vraiment.
Oui, bien sûr.
OK, mon client, il se présente avec X et je peux utiliser A, B, C dans le parcours proposé par Cogni. Peut-être que je peux juste utiliser A pendant 4 semaines, je peux juste utiliser B, l'outil B pendant un autre 4 semaines, et je peux finalement me rendre compte que, au fait, peut-être que l'outil B est plus favorable.
Alors, mon deuxième point, on va aborder un peu peut-être la question, je dirais, qui fâche, ou peut-être qu'elle va pas te fâcher du tout, mais tu sais, moi, je suis vraiment, tu sais, je suis conseillère, je suis praticienne, je me retrouve toujours, tu sais, dans les personnes qui sont très critiques, une critique peut-être positive, bien sûr, ou négative, mais très critique par rapport à l'utilisation, en fait, de plateformes où je vais devoir générer mes données, puis la collection de ces données, etc. Ma question qui passe, c'est qu'en est-il, en fait, de la protection, surtout qu'on aborde la question de la santé mentale, Qu'en est-il de la collecte de ces données sur ta plateforme? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous, je dirais que c'était votre première entrée en disant, OK, ça va collecter des données, bien sûr, et j'insiste encore dans ce balado pour dire que collecte des données, c'est pas, va des rétro-satanas, c'est on a besoin de toute façon des données pour améliorer les expériences. Sans données, on n'améliore pas et on reste où on est. Donc, ces données permettent aussi d'être étudiées, puis de fournir, en fait, une optimisation, c'est des outils qu'on utilise au quotidien. Cela dit, pour vous, qu'en est-il en fait de la gestion des données et puis de la protection des données qui seront générées dans ces interactions avec les professionnels?
Donc c'est sûr que tu te rappelles, ça fait quand même, je pense, 2 ans qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait l'expérience, au fait, le laboratoire expérientiel.
Oui.
Mais on allait se focusser sur la sécurité. Parce que pour nous, justement, parce qu'on avait le bagage santé, on vient du domaine de la santé, il y a plusieurs plateformes qui existent, mais qui n'ont pas nécessairement, qui ne suivent pas nécessairement les réglementations en cours ou les normes de conformité. Notre plateforme, on est avec MedStack, elle est sécurisée par MedStack dans le back-end.
Donc MedStack, c'est une compagnie d'Amérique du Nord, canadienne, enfin comment c'est?
Canadienne.
Canadienne, ok, très bien. C'est important de le dire.
Donc qu'est-ce qu'on a, on est en train d'ajouter sur la plateforme? C'est une façon de créer ses propres dossiers. Et qu'après un certain temps, lui, peut-être à chaque semaine, il peut décider que là, par puisqu'elle est encryptée, ça lui permet, lui, de s'envoyer ses dossiers à son propre serveur. Donc, ça veut dire que ces dossiers ne sont pas obligés de rester sous Cogni.
Oui, mais ça, c'est super important parce que ça veut dire que l'utilisateur a quand même le pouvoir de se dire, écoutez, moi, j'ai fait mon parcours, c'est super, je veux plus rien avoir, par exemple, à voir avec la plateforme. Je peux aller déplacer mes infos vers mon serveur et ne pas alimenter justement un éventuel business de données. Mais de toute façon, vous n'y êtes pas. Donc, tu sais, c'est important pour moi à chaque fois de poser la question, l'endroit où la technologie est développée. Actuellement, Cogni, c'est une plateforme qui est québécoise en santé mentale. Je dis pas qu'il y en a pas d'autres qui existent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent, des plateformes comme les tiennes québécoises?
Oui, il y en a d'autres qui existent pour la santé mentale, mais c'est peut-être la différenciation, je pense, c'est l'approche qu'on utilise. Donc, je sais qu'il y a, par exemple, Paperplane qui, eux autres, utilisent aussi la réalité virtuelle pour les enfants lors de vaccins. Au fait, ils ont des scénarios pour aider à diminuer l'anxiété des enfants lorsqu'ils prennent des vaccins. À 14 ans, tu es capable de dire comment tu te sens et non pas juste fier à « ben j'ai du fun, je veux rester là-dedans quand même ». Donc, c'était vraiment notre préoccupation. Donc, on s'est dit, tandis quand ils sont plus jeunes, ben même s'ils ont des sensations qui sont peut-être nuisibles pour eux, ils vont peut-être vouloir rester parce que ils ont du fun puis ils voient vraiment l'utilité. Donc, pour nous, présentement, on s'est pas embarqué là-dedans tant aussi longtemps qu'on voit pas assez de recherche sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour les enfants qui sont plus jeunes.
Réalité virtuelle, engagement scolaire. De tes recherches actuellement, sans tout dévoiler, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de recul pour se dire que la réalité virtuelle est un outil qui peut permettre l'engagement scolaire?
Selon ce que j'ai lu des différents chercheurs, des différentes études, ils disent que oui. Mon hypothèse, moi, c'est que oui. La réalité virtuelle peut permettre justement l'engagement des élèves, puis améliorer au niveau des interactions avec différents objets d'apprentissage, donc leur compréhension. Mais là encore, je veux pas trop avancer là-dessus parce qu'il faut valider, puis c'est quelque chose qu'il va falloir aller vérifier en expérimentation.
Mais c'est sûr que c'est encore la question qu'on se pose aujourd'hui. Puis, très récemment, là, j'ai fait un article, le cycle du hype, tu sais, et puis les cycles d'innovation. Et je vois que la réalité virtuelle, il y a eu comme un grand pic, un moment où, tu sais, c'était vraiment la chose qu'il fallait tester, etc. C'est redescendu parce que, je dirais, on est dans le creux de la vague, peut-être un peu montante, où c'est redescendu parce que, en termes de contenu, ce qu'on trouvait à l'époque, et quand je te dis à l'époque, c'est il y a 3 ans, c'est beaucoup du contenu de divertissement, beaucoup du contenu de jeu. Il y a eu de plus en plus de contenu pour la découverte, beaucoup de vidéos 360, mais en expérience, on n'en était pas encore là. Donc, il y a eu un pic de « waouh, métaverse, qu'est-ce que c'est ?» alors qu'on était déjà justement dans des phases d'exploration de la réalité virtuelle. Pour te poser la question justement par rapport au métaverse et tout ça, il est où ton positionnement justement? Est-ce qu'on pourrait dire que avec Cogni, il pourrait en fait avoir un espace où de nombreux utilisateurs pourraient se retrouver dans des situations en fait de virtualité avec des gens, je sais pas, du monde entier. T'sais, j'imagine, tu sais, quelqu'un dans ta plateforme, un utilisateur qui va vraiment utiliser la réalité virtuelle à des moments où t'en tirais pas, tu sais, bien dans le monde réel et pourrait rencontrer en fait d'autres personnes du monde entier, peut-être dans sa situation aussi, ou échanger. Est-ce que toi, tu vois que ta plateforme thérapeutique et du moins la réalité virtuelle dans ta plateforme thérapeutique peut faire un lien avec ce métaverse là, comme ce monde virtuel?
C'est sûr que oui, au niveau des groupes, c'est au niveau des événements puis des conférences, des événements, des webinaires par rapport à encore le bien-être, qualité de l'éducation. Donc comment on apprend à prendre soin de soi. Donc on peut inviter des psychiatres qui vont venir parler justement à un groupe de parents. Donc, de parents qui peuvent se rejoindre sur la plateforme pour être en mesure de communiquer entre eux, de voir qu'ils sont pas les seuls dans cette situation-là avec leurs enfants, qu'il y a d'autres parents aussi qui souffrent de la même façon qu'eux, tout en écoutant au fait des professionnels, des experts dans le domaine. Oui. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, puis à l'intérieur de ça, durant des pauses, ben les personnes peuvent aller jaser ensemble, ils peuvent aller dans des environnements qui sont relaxants, ils peuvent aussi participer à des activités telles que mindfulness, le yoga, en groupe aussi. Donc, pour nous, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, je pense que tu te rappelles, quand on a fait le laboratoire expérientiel, moi, dans ma tête, à tous les fois que je développais un environnement, il y avait une connexion à un autre environnement.
Oui.
Les environnements n'ont jamais été juste comme, ça a toujours été un pas qui peut t'amener à un train, qui peut t'amener à une académie pour ton apprentissage. Puis c'est ça le metaverse. Mm-hmm. Quand tu y penses vraiment, le metaverse, c'est une place au fait virtuelle qui te permet de voyager à différents niveaux.
Ouais.
Que ce soit au niveau thérapeutique, que ce soit au niveau entertainment, que ce soit au niveau des achats, parce que j'ai vu dernièrement, je pense, le metaverse de Nike.
Donc, oh wow!
ils ont plusieurs personnes, c'est organisations, entreprises, développent pour ça parce qu'ils se disent il y a différentes façons que les gens peuvent parcourir leur offre.
Oui, c'est ça. Puis avoir l'expérience d'achat en virtuel, quoi. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr que, bon, dès qu'on commence à passer dans le domaine du consumérisme, tu sais, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, déjà qu'on est capté dans la vie. dans la vie, de l'avoir sur le métaverse, tu sais, je comprends tout à fait que, tu sais, c'est un monde qui s'ouvre dans le domaine de la santé mentale et du thérapeutique, c'est par rapport justement à son usage aux rencontres, aux grandes conférences, cette mobilité aussi, de pouvoir partir d'un parc, prendre le train, etc. C'est vrai que c'est quelque chose justement qui m'emmène à la question de ton projet Cogni, si tu avais une boule de cristal là, et tu le vois à long terme. Tu sais, imagine en quoi c'est un projet qui s'intègre naturellement dans le besoin des praticiens en santé mentale ou dans le travail social. En quoi c'est quelque chose, en fait, qui va avec l'air du temps?
Mais moi, qu'est-ce que je te dis? Puis, en tout cas, c'est le fun parce que je peux me permettre, je me donne 3 ans, OK? On va dire 3 ans. Prochaines 3 ans, 3 à 5 ans, qu'il y ait département complet du CIUS, par exemple, le département jeunes en difficulté, et aussi pour les familles. Donc, une direction de jeunes en difficulté et familles. Donc, Cogni aurait un volet jeunes en difficulté immersif.
Ben c'est super parce que tu sais tu parles de tout ton parcours puis je trouve vraiment génial que et important que tu sais ce soit quelqu'un du terrain qui ait gravi en fait tu sais tous ces échelons en fait de connaissances pour apporter quelque chose qui répondait à un besoin réel sur le terrain. Moi je trouve ça formidable. Maintenant, je dirais toi, tu sais pour terminer en fait boucler cette conversation. C'est quoi ton projet, là, le projet brûlant, ce qui arrive actuellement? Parce que c'est vrai que tu as parlé de réalité virtuelle, intégration, l'évolution par rapport à la fois où on s'est rencontré pour le laboratoire expérientiel, c'est l'intelligence artificielle. ça commence vraiment à être du lourd, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des, on commence à faire, non, jusqu'à, je dirais, 2023, la validation des vitrines technologiques super intéressantes avec le milieu de la santé. On essaie de viser, justement, un CIUS, une ou deux universités.
Et le réseau collégial dans tout ça?
Oui, collégial aussi.
Mais l'enseignement supérieur.
C'est ça. On est pas mal là-dedans, là, présentement, où ce que de maintenant jusqu'à, je te dirais, 2023, on se concentre sur de la validation.
D'accord.
Avec des milieux très, très, très forts et qui pourraient nous permettre de voir comment qu'eux autres, on peut les aider au fait avec ce qu'ils vivent présentement et comment que, en même temps, à l'inverse, on peut valider certaines choses avec la plateforme Cognite. Bon, on a beaucoup de stagiaires qui travaillent avec nous. Ça, c'est une chose qui est vraiment intéressante. Peut-être que c'est là aussi les cégeps au niveau technique. Je sais qu'il y a plusieurs cégeps qui ont des programmes sur la réalité virtuelle présentement, comme, je pense, le cégep Lionel Groulx. Ils ont un beau programme sur la réalité virtuelle aussi. Donc, on peut aussi collaborer avec des cégeps, justement, pour les étudiants en design, puis animation. On est dans le domaine de la santé. Encore là, il faut toujours avoir en tête, justement, conformité, réglementation, certification.
Ben, certification, donc, protection des données.
Et tu, exactement.
Exactement. C'est super. Ben, écoute, ouais. Je suis vraiment ravie de cet échange. Merci beaucoup, Emmanuela, pour justement d'avoir partagé aussi ton parcours avec nous. Moi, je trouve que actuellement, il y a quelques années, on parlait de la réalité virtuelle, comme je disais, beaucoup pour le divertissement. On commence de plus en plus à avoir, en fait, des développements qui se font pas nécessairement pour de la réalité virtuelle, mais pour répondre à un besoin. Du terrain ou à un besoin pédagogique. Puis cette question de la santé mentale, c'est un peu, je dirais, apporte des enjeux. On doit prendre vraiment le taureau par les cornes et trouver des solutions. Malheureusement, c'est un peu comme, tu sais, le serpent qui se mord la queue, parce que, tu sais, avec toute cette technologie du métaverse, de la virtualité, de passer du temps devant les écrans, de temps en temps dans les casques, etc., ça pourrait aussi amener à, c'est pour ça que je dis le serpent qui se mord la queue, amener aussi à avoir peut-être de nouveaux problèmes de, c'est de comportement ou de distanciation par rapport à la société dans laquelle on vit. On en aura de plus en plus besoin et on va rentrer dans un cycle où on voit que les problèmes de santé mentale sont de plus en plus importants. Alors, est-ce qu'ils sont plus importants ou est-ce qu'on en parle maintenant plus ouvertement?
Puis, je pense qu'on en parle plus ouvertement. Donc, si on regarde, moi, j'ai travaillé dans le milieu avec les jeunes en difficulté, mais on se parle d'éducation spécialisée même.
Oui.
Et les budgets au niveau de la santé ont toujours été moins que ceux pour les autres difficultés. Donc, en partant, je pense que présentement, il commence à avoir une grande ouverture par rapport à la problématique de la santé mentale et que si quelqu'un se présente pour des problématiques de santé mentale, il faut le prendre tant au sérieux que quelqu'un qui se présente pour une problématique qui saigne, tu sais, qui saigne physiquement. Personne saigne intérieurement. Donc, c'est juste que c'est différent. Mais en même temps, oui, il y a eu beaucoup, on parle beaucoup de la santé mentale. Donc, c'est sûr que ça aide à plus positionner les besoins. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de personnes sur le terrain qui parlent, mais qui vont encore plus loin. Ils sont en train de revendiquer justement ce qui se passe, de vraiment être des évangélistes, je pourrais te dire.
Des porteurs, ouais, c'est ça.
Des porteurs, justement, très engagés pour la santé mentale. Et je pense que c'est ça qui aide. Plusieurs organisations aussi maintenant qui se positionnent au niveau de la santé mentale de leurs employés. Ça, c'est quelque chose aussi qui est quand même très nouveau parce que, au point, j'écoutais quelque chose, c'est tellement beau parce qu'on disait que les entreprises, au fait, on parle souvent de ressources humaines.
Oui.
Mais les employés ne sont pas nécessairement des ressources humaines, c'est une source d'énergie. Puis il y a quelqu'un il y a un auteur qui a comparé ça à une source renouvelable.
Oui.
Donc si tu mets pas de l'argent sur cette source renouvelable de ton entreprise, ben la culture de ton entreprise, les valeurs que tu essaies de véhiculer dans ton entreprise ne vont jamais atteindre ce niveau-là parce qu'à la fin de la journée, ben c'est cette source renouvelable qui amène ton entreprise à atteindre
ses objectifs. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est joliment dit. Mais en tout cas, si tu veux nous partager ces ressources et toutes les ressources que tu voudrais partager autour de la plateforme de Cogni, etc., de tes recherches aussi en technologie éducative, tu pourras me les transmettre, je vais pouvoir les partager. Merci, merci beaucoup à toi, Emanuela. Et puis, plein de belles choses. D'ici 3 ans, on en reparle. Et je suis sûre
Super.
que... On connaîtra ta plateforme. Merci beaucoup.